retrouvons sur Radio Grenouille 88.8 pour un voyage spatio-temporel au cœur de la recherche. De jeunes chercheurs, issus des disciplines variées de sciences humaines et sociales, vous amènent à travers le temps et l'espace pour vous faire découvrir leurs champs, leurs questionnements et leurs intérêts. Au fil de ces épisodes, découvrez les parcours de nos archéologues, historiens, littérateurs, juristes, musicologues et photographes.
Un voyage spatio-temporel dans la recherche qui commence il y a 5500 ans, en moins 3500 ans avant Jésus-Christ. Laurine, doctorante en préhistoire, bonjour.
Salut.
Travaille sur la parure de la fin du néolithique dans le sud-est de la France. Tu viens de nous partager un morceau assez connu. Qu'est-ce qu'il évoque pour toi?
Donc, c'est le thème du célèbre aventurier Indiana Jones. Donc, Indiana Jones qui est très souvent relié à l'archéologie, hein, dans le cliché de l'archéologie. Donc, on imagine très souvent que c'est l'archéologue typique, alors que bon, c'est vraiment un gros cliché. Hein, aucun archéologue n'a ni de fouet, ni de chapeau.
Dommage.
C'est dommage, ouais, mais... En tout cas, c'est pas comme ça qu'on pratique l'archéologie en vrai.
Ok. Bah, y a un petit son que tu nous partages aussi. Donc apparemment, c'est le vrai son de l'archéologue, peut-être. Alors, des petits bruits, des petits, je sais pas, j'arrive pas trop à voir ni à sentir ce que c'est. Tu peux nous aider?
Oui, alors c'est le son d'une fouille, alors un petit son. Donc il faut savoir qu'il y a quand même une grande partie des fouilles qui vont se passer en ville. Donc là, c'est le son d'une fouille sur l'île de la Cité à Paris. Et en fait, bah, ce qu'on entend, le son de l'archéologie, c'est bon, y a le bruit du métro, il y a le bruit des cloches, et puis ces petits gratouillements, c'est le bruit de la truelle hein, sur la terre. On passe une partie de la recherche en archéologie, ça se passe sur le terrain, sur les fouilles, et du coup, c'est on manipule la terre, voilà.
Donc terre, soleil, archéologie, Indiana Jones. C'est quoi ta recherche? Sur quoi tu travailles?
Alors, moi, je travaille sur donc, la parure de la fin du néolithique dans le sud-est de la France. Donc, la parure, c'est essentiellement les bijoux. Et je cherche à savoir comment ils ont été fabriqués, comment ils ont été portés, hein, est-ce que c'était plutôt en collier ou plutôt cousu sur des vêtements. Et je cherche à savoir surtout bah, qu'est-ce qu'ils signifiaient, ces bijoux. Est-ce qu'ils étaient plutôt réservés à une classe d'âge, c'est-à-dire... pour les vieux, pour les jeunes, plutôt réservé, enfin une partie qui est réservée à un sexe, ou alors à un statut social. Est-ce que c'est des bijoux qu'on portait uniquement par ce qu'on pourrait appeler une élite, ou alors au contraire des bijoux qu'on retrouve partout, tout le temps, et qui pourraient être des bijoux plus communs.
Ouais. Comment, donc, à quel moment tu sépares l'écriture, à quel moment la fouille se met en place, comment est-ce que tu peux nous expliquer à peu près les temps que tu mets le schéma que tu installes pour continuer ta recherche?
Alors, dans un premier temps, donc, la base de notre documentation en archéologie, ça va être le terrain, donc la fouille, qui va durer donc, plus ou moins de temps. Ça va dépendre du contexte. Hein. Si c'est des fouilles préventives, ça va durer quelques mois. Donc, les fouilles préventives, c'est celles avant les travaux où on va construire ou détruire quelque chose. Et après, au contraire des fouilles programmées, c'est pas des sites qui sont en danger, entre guillemets, et qui vont, du coup, les fouilles programmées vont généralement se passer sur plusieurs années, on y retourne l'été, généralement. Et du coup, c'est là où on va récupérer donc, la documentation primaire, hein, on va étudier le site, donc ça va être les structures, les murs, les fosses, les sépultures, si c'est un cimetière ou autre. Et on va étudier le contexte, et c'est là aussi où on va du coup récupérer les objets. Et du coup, moi, mon travail est plutôt... après la fouille, hein, donc c'est ce qu'on appelle le post-fouille. Donc je vais étudier les bijoux qui ont été récupérés sur un site. Et donc je vais les étudier. Moi j'utilise une loupe binoculaire pour grossir et pour voir les traces qui ont été laissées. Donc les traces à la fois de fabrication, les traces d'utilisation, pour du coup comprendre comment ils ont été fabriqués et comment ils ont été portés. Et après, dans une analyse à niveau au-dessus, entre guillemets, je vais réunir le contexte et mes observations pour travailler justement sur la question du statut de ces bijoux.
C'est beau, hein, tu nous fais rêver. Hein. Je veux dire, moi, aller en fouille, trouver des bijoux, c'est vraiment, je dirais, un paysage assez particulier. Vraiment, je pense que tu as une chance énorme de faire ce travail-là. Merci pour ce partage. Mais pour toi, spécifiquement, j'imagine qu'il y a un moment particulier qui te plaît. Il y a quelque chose qui t'anime le plus. Est-ce que c'est trouver le bijou? Est-ce que c'est l'écriture, l'analyse, l'histoire?
Alors déjà, il faut savoir que moi, concrètement, je trouve assez peu de bijoux sur les chantiers. J'ai une réputation en mode, quand j'arrive sur un chantier, on me dit « Ah, c'est sûr, aujourd'hui, on ne va pas trouver de parure. » C'est ma réputation. Et donc, ce n'est pas forcément ce moment-là que je préfère, même si j'aime beaucoup la fouille. Moi, ce que j'aime bien, c'est, on va dire, c'est l'analyse supérieure. C'est en fait, finalement, une fois qu'on a fait plein d'observations sur des perles, j'en vois plusieurs centaines, j'ai pris des centaines de mesures, et je vais faire mes analyses, je vais faire des statistiques, etc. Et là, il va se dessiner un schéma. Et en fait, c'est ce moment-là où en fait, on va avoir des espèces de réponses, à des premières réponses qui sont assez vagues. Hein, et c'est ce moment-là qui me plaît le plus. En fait, c'est presque, c'est pas la rédaction, mais c'est le moment où on va poser sur le papier les résultats qu'on a obtenus. Et là, on va se dessiner en fait, comment cette société elle était organisée. En gros, ce moment où on découvre... on a une espèce de révélation sur toutes nos observations, en mode « Ah ouais, mais c'est ça, en fait, ces perles, elles ont la même taille que celles à 50 km plus loin, c'est peut-être le même, etc. »
Est-ce que tu rêves avec ce genre de situation? Je veux dire, est-ce qu'il y a... Quand tu parles, on dirait que tu le vois, que tu vois ce temps qui est caché sous la terre.
Alors... Oui et non, c'est-à-dire qu'on l'imagine, mais c'est compliqué, on ne voit pas. Enfin, moi, concrètement, je n'imagine pas les gens en train de fabriquer leurs bijoux, etc. Je vais voir, pas en entier, ou alors je vais voir plutôt des gestes, je vais imaginer les gestes, etc. Surtout qu'on, nous, on fait pas mal d'expérimentations, c'est-à-dire qu'on va refaire des bijoux ou des outils avec les techniques. Donc du coup, je vois plus les gestes des mains, mais j'imagine difficilement les personnes. C'est très compliqué de s'imaginer les personnes qui vivaient en entier, en fait. On va plutôt avoir des bribes ou alors on va se faire des schémas d'organisation, etc. Mais voir la personne, les personnes en elles-mêmes et se réimaginer la vie, non, moi, j'ai du mal à réimaginer ça.
Et refaire les gestes, tu peux m'expliquer comment est-ce que tu refais un geste?
Alors, l'expérimentation, c'est tout un pan de l'archéologie. Alors, ça peut avoir des visées pédagogiques hein, pour montrer comment c'était, mais c'est aussi très important pour la recherche puisque... On a une discipline qui s'appelle la tracéologie, où en fait on va chercher à comprendre les traces qu'on a sur les objets, notamment pour comprendre l'utilisation de ces objets. Par exemple, on va donc du coup faire des objets, des techniques, par exemple une lame en silex, et on va l'utiliser pour couper du bois. Et on va regarder au microscope les traces que ça a laissées sur l'outil expérimental. Et ensuite, on va comparer ces traces sur les outils archéologiques. Et du coup, on va pouvoir déterminer à quoi a servi un objet ou plusieurs objets. Donc du coup, c'est assez intéressant. Et puis, ça marche aussi pour les techniques. Hein. Mmh. À un moment, si c'est difficile de reconstituer ce qu'on appelle une chaîne opératoire, donc les différentes techniques et étapes de la fabrication, si on n'a pas pratiqué nous-mêmes, en fait, si on n'a pas d'idée de savoir comment la matière elle va réagir. Alors, si je tape comme ça pour le silex, est-ce que ça va marcher? Si on n'a pas un minimum de contact avec la matière première, c'est difficile de reconstituer les techniques, en fait.
Donc, toujours les mains dans les techniques et toujours le corps et tout ce qui est le physique inclus dans une recherche. Des anecdotes, tu imagines qu'aller fouiller sous le soleil, c'est pas toujours très facile, ça doit être très beau, hein, mais est-ce que tu peux nous raconter une anecdote d'un terrain, de quelque chose qui est arrivé dans une de tes fouilles ou ce que tu entends dans tes collègues?
Alors oui, il y a toujours plein d'anecdotes sur le terrain. Le terrain, c'est quand même un moment important, c'est un moment communautaire. Hein. On vit plusieurs semaines... en communauté, parce que généralement, surtout pour les fouilles programmées, on dort plus ou moins sur place, à côté, enfin on dort dans les mêmes espaces, donc c'est un groupe, donc il y a forcément un moment collectif qui se passe. Des fois, c'est un peu dur hein, aussi de vivre plusieurs semaines en collectivité, parce qu'il faut aussi s'impliquer dans la vie collective et c'est pas le cas forcément, c'est pas quelque chose qui est toujours facile. Et après, c'est quand même des moments, même si c'est dur, parce que c'est quand même un travail physique, on est souvent au soleil, on n'est pas toujours à l'ombre, l'été il fait chaud. Mais bon, c'est quand même des moments assez conviviaux, alors on a un petit jeu généralement, alors pas sur tous les sites, mais qu'on aime bien faire, c'est le Shabadabada. Shabadabada, c'est en fait, on donne un mot et chaque équipe doit trouver les chansons qui contiennent ce mot. Et généralement, alors, sur un des sites, c'était un de nos jeux favoris. On était assez éloignés les uns des autres, mais du coup, on chantait un peu fort d'un côté du site à l'autre. Alors bon, on n'était pas très très loin, mais et on se répondait comme ça entre parties de site. Voilà, c'était assez drôle.
Super. Je prends une dernière phrase avant de finir. Je lis une phrase dans un horoscope. Promène-toi lentement dans le palais de tes plus beaux souvenirs. J'espère que tu trouveras une parure bientôt parce que tu le mérites, je crois. Merci.
Vous venez d'entendre Laurine Vielle, bijoutière du Néolithique. Premier épisode de notre voyage dans la recherche. À suivre, Émilie Mitran, intimité révolutionnaire.
Grand bond dans le temps, mais on reste en France. On se retrouve à Paris en 1789. Émilie, doctorante en histoire américaine du XVIIIe siècle, elle s'intéresse à la vision de la Révolution française sous le regard d'un révolutionnaire américain. Qu'est-ce qu'on entend ?
Alors, ce qu'on entend, c'est le bruit d'une jambe de bois. Pour faire le lien avec ma thèse, j'étudie une figure historique dont le nom est Gouverneur Maurice. Et cet homme portait une jambe de bois.
Pourquoi ce personnage ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? On entend Gouverneur Maurice, un nom particulier. Souvent, en dehors du micro, tu nous dis que ce n'est pas gouverneur, sinon ce n'est pas le gouverneur, c'est Monsieur ça. Gouverneur. Qui est ce personnage ? Pourquoi tu le cherches ?
Alors, c'est un personnage sur lequel peu d'historiens ont travaillé. Et pourtant, il est assez important dans l'histoire à la fois américaine et française. C'est l'auteur du préambule de la Constitution américaine, qu'il a en partie rédigé. Donc, c'est ce que l'on appelle aux États-Unis un père fondateur. Puis, qui est venu s'installer en 1789 en France, donc pour poursuivre ses affaires de financier. Et il devient aussi, par la suite, ambassadeur des États-Unis en France. Donc, une figure de première importance pour la période.
On va écouter un petit morceau de ce journal.
C'est ça.
Les domestiques ne savent pas quoi faire de moi à cause de la simplicité de ma tenue, de ma jambe de bois et de mon ton d'égalité républicaine qui semble complètement déplacé à la levée d'un ministre.
J'imagine qu'en lisant un journal intime, en plus c'est un journal intime, donc tu dois être quand même assez proche de lui. Comment tu vis cette relation parce que c'est de connaître quelqu'un aussi bien.
La question de l'intimité n'est pas la même au XVIIIe siècle que de nos jours, donc bon, on pourrait rentrer dans des questionnements après. Divers, mais clairement, oui, j'apprends à connaître en tout cas son ton, sa manière d'appréhender les relations sociales et d'évoluer dans un milieu qui n'est pas le sien, puisque justement il détonne de ce milieu très, très mondain. Mais disons que dans son journal, on a beaucoup d'anecdotes qui nous permettent de cerner le personnage, de la façon dont il parle de son environnement et des autres, nous permet de dresser un portrait de Maurice qui est plutôt plaisant.
Alors que je me trouve là assis, une personne entre et annonce la prise de la Bastille, dont le gouverneur a été décapité, de même que le prévôt des marchands, lui aussi tué et décapité. Ils transportent les têtes au bout de leurs piques dans toute la ville. L'assaut de cette citadelle fait partie des événements les plus extraordinaires dont j'ai entendu parler. On dit que cela a coûté la vie à 60 assaillants. Hier, il était de la dernière mode à Versailles de prétendre qu'il n'y avait pas de désordre à Paris. Je suppose que les soubresauts du jour auront apporté la preuve que tout n'est pas parfaitement calme.
Alors, pourquoi étudier la Révolution française à travers du regard d'un Américain ?
Je crois déjà que c'est une voix assez particulière, celle que, en tout cas, Maurice propose dans son journal. Et justement, c'est avec ces détails-là que lui seul nous donne que l'on peut apprendre encore des choses, finalement, sur la Révolution française, qui reste un événement que l'on connaît, en tout cas, que l'on croit connaître bien. Par exemple, dans l'extrait que l'on vient d'entendre, on voit qu'il est surpris par la prise de la Bastille. Il y a une certaine aussi frayeur quand il voit la puissance, la violence même du peuple. Et aussi la critique de la royauté, de son hypocrisie à ce moment-là. Donc il y a toutes ces choses-là dans le journal et je pense que c'est sa qualité d'Américain qui fait qu'on peut avoir un regard un petit peu neuf sur un événement, sur des événements en tout cas canoniques que l'on connaît en France.
Sa place par rapport à... Enfin, lui, il est plutôt de... il vit plutôt avec la noblesse, avec la bourgeoisie ou...
Oui, il réside à Paris près des Tuileries, donc proche, disons, de l'aristocratie dure, proche du roi. Et il est plutôt proche de la pensée de la noblesse. Donc même si c'est un révolutionnaire américain, un républicain, en France, il se rapproche des aristocrates et des contre-révolutionnaires.
Tu sais pourquoi il se trouve en France à ce moment-là? Pourquoi
oui.
Il est de visite ou c'est quoi son
oui.
voyage?
Alors après la révolution américaine, après l'institution de la constitution américaine en 1787, il va en France pour spéculer sur la dette américaine que possède la France.
Ce personnage est quand même un témoin étranger qui va te parler, toi qui va nous parler, nous tous, de la France. Quelle est ta posture de chercheuse par rapport à ce journal dont tu nous parles et dont certains extraits vont être écoutés?
Déjà, il faut se poser la question de son objectivité. Moi, en tant que chercheuse, je ne vais pas croire, c'est-à-dire prendre sa version des faits et dire voilà la vérité, mais c'est bien ce qu'il nous dit que je vais étudier, c'est les particularités de sa vision, puisqu'il n'y a pas de vérité à proprement parler, ce sont que des subjectivités qui sont, disons, un puzzle de subjectivités qui font l'histoire. Donc là, ce qui m'a intéressé, c'était quels sont ces détails qu'il nous donne.
Donc j'imagine que tous ces livres, tous ces journaux, tous ces, c'est en anglais. Est-ce que ce document est traduit? Est-ce qu'on peut le trouver? Comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait avoir accès à ce document si fragile qui se trouve aux États-Unis?
Oui, alors justement, il vient d'être traduit en français pour ceux qui ne peuvent pas le lire en anglais. C'est aux éditions de Rose, il a été traduit par mon directeur de thèse, Gérard Hugues, et actuellement c'est donc le premier volume d'une suite de volumes qui va suivre, et c'est l'année 1789 qui est publié.
On peut parler de vrai, de faux, de doute déjà dans l'écriture d'un personnage par rapport à un événement. Une traduction, est-ce que c'est encore une doute et un vrai ou un faux sûr? Un vrai, une doute et un faux.
Je comprends. Disons qu'on rajoute un filtre, forcément, on va traduire, donc on va l'interpréter, ce texte. Mais je dis « on » puisque j'ai participé également à la traduction du manuscrit. Mais on a respecté la voix de Maurice. C'est ça qui prime, et justement, être le plus fidèle à sa voix si particulière, puisque dans le journal, on a des choses qui sont très politiques, très difficiles à lire, à traduire également, tout ce qui concerne la finance. Et ça côtoie tout le côté prosaïque du quotidien, comme les mots du corps ou des détails bien plus intimes.
Lui communique la jouissance qui répétait chez elle extrême. Sur le quai entre le Louvre et les Tuileries, nous nous étreignons à nouveau. Si le cocher avait tourné la tête, il aurait été témoin d'une scène surprenante.
Une scène surprenante de la jouissance, des têtes coupées. Qu'est-ce qui arrive à Paris?
Plein de choses. C'est justement là, ce qui fait l'originalité du journal, c'est tout le côté personnel que l'on peut avoir. Donc, comme j'ai dit, il y a des choses qui sont plus difficiles à lire, mais c'est ponctué comme ça de petits moments très jouissifs pour le lecteur également. Donc, par exemple, on va apprendre plein de choses également sur, des personnages comme Lafayette, Mirabeau ou d'autres nobles et aristocrates que l'on connaît moins, mais on va rentrer dans leur intimité à eux aussi également. Et on rentre même dans l'intimité du roi, si je peux dire.
Ça nous donne envie de lire, en fait, ce journal. Je pense que c'est un personnage intrigant et qu'on connaît peu, je dirais. Avant de passer à la dernière citation, moi j'ai une question peut-être particulière. Tu écris un journal intime ?
Non, moi je n'en tiens pas.
Ok, merci.
Il paraîtrait que le roi est par nature cruel et vil. L'un des exemples qui m'a été donné est qu'il s'adonnait autrefois à faire rôtir des chats vivants. Je confie à mon amie que je ne peux croire de telles choses. Elle me répond qu'il était bel et bien coupable de tels méfaits lorsqu'il était plus jeune, que c'est une brute et qu'il est mauvais, sa bestialité l'ayant même conduit à frapper son épouse lorsqu'il était dauphin, et qu'il fut exilé 4 jours par son grand-père, Louis XV. Elle ajoute que jusqu'à très récemment, il avait pour habitude de toujours déféquer dans sa main, cela étant plus pratique. Il ne fait aucun doute qu'un tel animal devrait être détrôné.
Vous venez d'entendre Émilie Mitran, Intimité révolutionnaire. Deuxième épisode de notre voyage spatio-temporel dans la recherche. À suivre, Anaïs Martin, Le sang dans le son.
On continue notre voyage spatio-temporel, on reste dans le monde anglophone. Mais on voyage en Angleterre, le 19e siècle. Anaïs, doctorante en littérature britannique. Hello Anaïs.
Bonjour.
On va écouter un thème générique qu'elle nous présente.
Un extrait sonore très grandiloquent peut-être. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'on vient d'entendre ?
Tout à fait. Donc en fait, c'est le thème musical de l'adaptation radiophonique de Dracula qui a été faite par France Culture en 2014 sous forme de concert fiction en fait. Donc c'est un format inédit développé par Radio France et qui propose une expérience radiophonique originale. Donc c'est une adaptation, une fiction qui est enregistrée devant un public avec tous les corps de métier radiophonique sur scène. Donc on a l'Orchestre National de France, on a des comédiens qui viennent jouer la fiction et des bruiteurs qui viennent donner du relief sonore à cette adaptation.
Dracula, un personnage connu de tous, peut-être moins dans cette nouvelle version, en tout cas pour moi. Cliché de Dracula, on en voit partout, on tape sur internet Dracula, toutes ces images apparaissent.
Quelles images ça vous évoque, Dracula ?
Noir, des dents, du sang.
Un vampire.
C'est bien parti.
Voilà. Je ne voudrais pas trop me réveiller le soir avec, mais...
Oui, je trouve que la musique, justement, ça peut rejoindre une image que l'on pourrait avoir de Dracula, le côté très noble. Enfin, moi, j'ai l'idée du manoir qui me vient à l'esprit. Donc, j'imagine bien cette musique avec l'image d'un manoir et un orage au-dessus du manoir. Enfin, un truc très sombre.
Mais j'aime beaucoup tous les clichés, les images attendues qu'on a. Et je vous propose un extrait pour voir comment, justement, ces images sont retranscrites de façon sonore, en fait.
Vous entendez ? Ce sont les enfants de la nuit. Un chasseur est touché par cette musique. Vous ne chassez pas, monsieur Harker ?
Je crois qu'il vaut mieux que je regagne ma chambre.
Mais alors, qu'est-ce que vous en pensez, par exemple ? Est-ce que pour vous, ça retranscrit bien cette idée de Dracula ?
Au niveau de la voix, ouais. Il y a un petit côté un peu flippant.
Flippant, oui, y a l'accent. On a un côté très animal, en fait, dans l'intonation du comédien. On a aussi tous les bruitages qui sont faits avec les loups, etc. On va retrouver aussi le bruit du cliquetis, du château, comme tu disais. Voilà, donc ça, c'est plein de manières sonores qui permettent de retranscrire ces images et de les adapter pour la radio, en fait.
De quelle façon tu travailles ton sujet, ton travail de recherche ? Parce qu'on a la radio et là, il y aura bientôt, j'imagine, un texte que tu vas commencer à écrire. Comment est-ce que se met en place cette recherche ?
En fait, j'ai travaillé en deux temps, puisque comme je travaille sur les adaptations, c'est important de commencer par le roman. Donc j'ai commencé par analyser les paysages sonores des romans sur lesquels je travaille. Donc Dracula en fait partie, mais il y en a un autre. Et après, j'ai analysé de manière sonore, en fait, donc les adaptations radiophoniques. Et j'ai aussi fait un lien avec le monde de la radio, puisque j'ai eu la chance de m'entretenir avec des adaptateurs, de savoir comment ils travaillaient. J'ai pu assister aux concerts fiction, puisque ce sont des représentations qui sont faites en public, en fait, donc on peut vraiment y assister. J'ai pas pu assister à Dracula, mais aux nouvelles productions qui ont été faites par France Culture. Et j'ai pu aussi assister à un enregistrement d'une des fictions qui a été produite très récemment de Riquet à la Houppe, en studio à France Culture, donc ça m'a permis de voir un petit peu comment on pouvait créer, comment se passait la création radiophonique en coulisses. Ben, on va écouter un autre extrait, en fait.
Debout, Mina ! Nous allons à Piccadilly !
Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce nouvel extrait ?
Il retranscrit bien, je trouve, le déplacement dans l'espèce de cavalcade que les instruments retranscrivent. Justement, je dirais qu'en lisant le livre, on aurait le même sentiment d'urgence. Et là, c'est peut-être même plus intense en l'écoutant.
Mm-hmm. Moi, j'imagine un carrosse de transport qui part à toute vitesse.
Alors j'aime bien cette image de carrosse, sauf que je trouve, après c'est mon interprétation personnelle, on est quand même dans l'Angleterre victorienne, donc 19e siècle, révolution industrielle, etc. Mmh. Donc je trouve que ce que Didier Benetti, qui est le compositeur de cette musique, a vraiment bien réussi à faire, c'est une sorte de mouvement circulaire qui peut évoquer un petit peu aussi, avec les percussions, le bruit du train, en fait. Mmh. Donc c'est vraiment cette idée de déplacement, et en fait on voit ici, enfin on entend ici, que la musique peut en fait prendre le relais du narrateur et venir expliquer à l'auditeur que en fait voilà les personnages sont en train de se déplacer, d'aller à Piccadilly Circus, etc., qui sont en train de chasser Dracula, que l'intensité est absolument urgente. Mais en tout cas voilà, on a une autre technique de narration qui se met en place à la radio.
Oui, donc pour rebondir sur ce que tu dis, finalement, le style d'un roman va être retranscrit de façon individualisée presque par les instruments. On retrouve finalement, chaque auteur aurait son style sonore, ou pas ?
Chaque auteur, oui, mais là, il ne faut pas oublier... Enfin, si on parle du concert fiction, il y a une double écriture. On va partir de l'écriture de Bram Stoker, qui est... quelqu'un qui avait une sensibilité sonore particulière, puisque quand on étudie le roman, on entend des sons. Mais là, on a aussi la vision de l'adaptateur, puis la vision du réalisateur. Donc on a quand même plusieurs couches qui viennent s'additionner en termes de style sonore.
Voilà.
Sachant qu'il faut aussi prendre en compte la place de l'auditeur, qui va s'imaginer, se figurer les sons aussi par rapport à sa propre subjectivité.
Oui.
Une recherche particulière, je dirais, beaucoup de sang, beaucoup de...
De son ou de sang ?
De sang et de sang, c'est vrai, ça se retrouve dans cette recherche. Qu'est-ce qui te motive, le sang ou le sang ?
Le son, ah. Le son. Même si je mets beaucoup de sang dans ma thèse, et d'énergie. Mais ce qui me motive, c'est cette idée de trouver une autre façon de lire, de proposer de nouveaux formats, de nouvelles façons d'envisager la lecture et la fiction. Et aussi d'envisager en fait, des débouchés pédagogiques, en fait, de la façon dont ça peut servir dans notre rôle d'enseignant-chercheur pour la suite.
Donc du coup, tu disais visée pédagogique, est-ce que du coup, ça pourrait, la radio, ces adaptations sonores pourraient remplacer la lecture pour des jeunes publics ou pour même des publics plus âgés ?
Il y a forcément le débat de la fin de la lecture, la fin du livre, etc., et dans lequel je ne veux pas rentrer parce que je ne m'y connais pas assez. Mais clairement, ça dépend du format. Grâce à un feuilleton radiophonique, grâce à des concerts fiction, on trouve de nouvelles façons d'aborder la lecture et d'aborder l'imagination et donc la fiction et la façon de lire, en fait.
Donc la traduction de l'anglais au français ? Pourquoi faire ? Qu'est-ce que peut nous aider d'avoir des traductions de ce type dans ton cas ?
Pour moi, là, on a une traduction sonore, en fait, d'un roman. Et c'est une traduction qui va dépasser la simple traduction linguistique. On n'est pas simplement dans la traduction de l'anglais au français. On va aller plus loin, on va dans la retranscription en fait, d'une atmosphère, dans la retranscription de cette Transylvanie avec les loups, de l'accent de Dracula, etc. Et voilà.
Donc il y a traduction sur traduction sur traduction, quelque part.
C'est là qu'il faut se demander si on n'a pas tout simplement une nouvelle création, une réécriture.
Et donc, l'intérêt de cette adaptation en français, les adaptations françaises en général dans des œuvres anglaises, tu peux nous dire un peu plus ?
Ça sert, je pense, principalement à faire connaître une partie de la littérature victorienne, donc du 19e siècle anglais, à un public qui peut en être friand, puisque on a toutes les tendances vampiriques actuelles, les vampires sont à la mode, les morts-vivants, tout ce qu'on veut. Et donc forcément, on a quand même un public qui est réceptif et qui peut découvrir des classiques de la littérature anglaise grâce à ces nouveaux formats et grâce à la radio.
Les vampires sont à la mode.
Bien sûr. On voit avec toutes les tendances vampiriques que c'est quand même quelque chose qui est assez... Le gothique du 19e est assez populaire et donc ça permet de continuer à faire découvrir cette littérature.
Vous venez d'entendre Anaïs Martin, Le sang dans le son. Troisième épisode de notre voyage dans la recherche. À suivre... Abdelhakim Zamit, arbitre du droit. Saut dans l'espace, mais toujours à cheval entre deux pays, la France et la Libye. Abdelhakim. Doctorant en droit public, tu t'intéresses à l'arbitrage en droit administratif. Qu'est-ce que c'est l'arbitrage, cher Abdelhakim ?
L'arbitrage, c'est-à-dire en arabe, c'est at-tahkim. يقصد بالتحكيم في اللغة العربية أو في القانون الليبي هو طريقة بديلة لحل المنازعات التي تحدث بين أشخاص القانون العام والأشخاص الخاصة أو الشركات الأجنبية من أجل حل هذه المنازعات التي تحدث داخل العقود الإدارية أو فيما يتعلق بالعقود الإدارية. في الحقيقة أطراف هذا النزاع هم من يختارون المحكمين الذين يقومون بالفصل في هذا النزاع بمعنى أن هذه الطريقة هي طريقة إرادية ترجع لأطراف النزاع أنفسهم لاختيار الأشخاص المختصين أو ذوي الخبرات للفصل في هذا النزاع بطريقة أسهل وأبسط من اللجوء إلى محاكم الدولة.
Pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe comme moi, tu peux nous dire en quelques mots?
Ok, c'est-à-dire en français, c'est l'arbitrage. L'arbitrage est un mode alternatif comme solution pour régler les litiges des contrats administratifs entre les personnes morales des droits publics et les personnes privées ou les sociétés étrangères avec les CTB. Il est en justice volontaire, c'est-à-dire les parties qui choisissent ces juges pour trancher leur litige. Les parties donc s'accordent pour soumettre leur litige à une ou plusieurs personnes privées qui sont le tribunal arbitral.
Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi choisir de recourir à l'arbitrage pour remplacer finalement la justice ordinaire?
Ok, en premier temps, je vais parler en arabe pour expliquer en arabe. Après, je vais traduire en français. أنا اخترت الموضوع التحكيم لأنه موضوع جدا مهم بالنسبة للقانون الليبي وأيضا لأن التحكيم لديه عدة مزايا تساعد القانون الليبي على حل المنازعات الإدارية. من ذلك مثلا البساطة والمرونة في الإجراءات. نجد أن في محاكم الدولة الإجراءات تكون طويلة ومن عدة درجات بينما في التحكيم فهو من درجة واحدة في الغالب وإذا حدث فيكون فقط من درجتين كذلك التحكيم يؤدي إلى كسب الوقت والجهد والمال فنجد أن في قضاء الدولة الأطراف ملزمون بدفع رواتب المحامين مدفع كذلك رسوم الاشتراك في المحاكم كذلك بعض الرسوم الإضافية لسير هذه الإجراءات كذلك نجد أيضا من فوائد التحكيم هو تخفيف العبء على محاكم الدولة، وخاصة أن في القانون الليبي ليس لدينا محاكم إدارية خاصة، وإنما لدينا فقط حجرة أو جزء إداري داخل المحاكم الخاصة، فلذلك نجد أن هناك كثير من الدعاوى أمام هذه المحاكم، لذلك نريد سحب جزء من هذه المحاكم إلى جهة أخرى لتخفيف العبء على هذه المحاكم. أيضا كما قلت سابقا فإن التحكيم يوفر الخبرة والاختصاص لدى المحكمين، فأطراف النزاع عندما يقومون باختيار المحكمين فهم يحرصون دائما على اختيار الأطراف ذوي الخبرة وذوي الاختصاص في هذا المجال. فمثلا إذا كان هذا المجال في مجال الكمبيوتر أو في مجال الإلكترونيات فيجب اختيار الأشخاص الذين يختصون في هذا المجال. En français, on dit c'est le premier l'entrée de l'arbitrage, c'est la simplicité. Parce que les procédures de l'arbitrage ont moins que les procédures du tribunal ordinaire. On trouve dans le tribunal ordinaire, il y a beaucoup de grès pour passer les contentions. Mais dans l'arbitrage, normalement, il y a juste un degré, mais il y a un exceptionnel si maximum c'est 2 degrés. Par exemple, la multiplicité des degrés de justice et la lenteur de démarche de le tribunal ordinaire. Le deuxième intérêt de l'arbitrage, c'est gagner du temps et de l'argent. Parce qu'on a dans la justice étatique, on doit payer les frais de la justice et aussi les frais de l'avocat et aussi beaucoup de frais pour passer les contentieux devant les tribunaux étatiques. Le troisième, l'entraide de l'arbitrage, c'est allège la charge sur les tribunaux de l'État. En fait, on voudrait sortir beaucoup de contentieux de le tribunal étatique à la tribunal arbitral. Parce qu'il y a beaucoup de contentieux devant les tribunaux étatiques. Pour ça, on utilise l'arbitrage. Et le quatrième, l'entraide de l'arbitrage et les fins, c'est l'expérience et les spécialistes de l'arbitrage, de l'arbitre. Parce que les arbitres doivent tenir compte, on veut nommer les arbitres, de leurs spécialistes en lien avec l'objet du litige. Par exemple, si le litige porte sur le sujet de la comptabilité, par exemple, les parties doivent choisir un spécialiste dans ce domaine comme arbitre.
Donc, tu choisis de faire une étude comparée entre la Libye et la France.
Oui.
Tu peux nous dire quelle est l'importance et tes choix pour faire cette étude comparée?
En fait, j'ai choisi en France comme étude comparée avec le droit libyen parce que le droit français, il est considéré comme source de beaucoup de droits arabes sur tous les droits libyens. On a beaucoup de l'article qui origine du droit français. Et aussi, la Libye dans le monde développé et aussi comme niveau, c'est tiers monde, mais la France c'est le premier monde. Pour ça, je voudrais gagner beaucoup de l'expérience de la France qui est passée déjà.
On sait que la Libye se trouve dans un moment particulier, c'est une histoire difficile. Est-ce que tu peux nous partager un peu le moment actuel dans quelques mots, s'il te plaît?
En fait, en Libye, on manque beaucoup de choses, comme par exemple, on a un vide dans la législatif de droit à l'arbitrage. Pour ça, moi, je voudrais encourager les législatures libyennes pour prendre l'arbitrage comme un mode alternatif pour régler l'arbitrage. Comme je dis déjà, en droit Libye, il n'y a pas un tribunal administratif indépendant, mais tous les tribunaux, il est compliqué. Et aussi, on a beaucoup de contentieux devant les tribunaux étatiques, soit national, soit international. Et aussi, après les guerres de 2011, on a perdu beaucoup de tension devant le tribunal international sur tout. Et on a perdu beaucoup de l'argent pour, parce qu'on n'a pas les personnes qui sont spécialistes, qui ont l'expérience pour faire l'arbitrage dans le monde Libye. Pour ça, on va gagner l'arbitrage comme une minute pour trancher tout ce litige.
Un projet de recherche très courageux. Merci Abdelhakim de partager avec nous cette force.
Vous venez d'entendre Abdelhakim Zamit, arbitre du droit. Quatrième épisode de notre voyage spatio-temporel dans la recherche. À suivre, Virginia Pizzano, écouteuse de rue.
On poursuit notre voyage spatio-temporel en Égypte et nous nous retrouvons en 2011. Bonjour Virginia.
شرفت يا نيكسون بابا يا بتاع الوترجيل عملوا لك ايه موسيمة سلاطين الفول والزيت شرفت يا نيكسون بابا يا بتاع الوترجيل عملوا لك ايه موسيمة سلاطين الفول والزيت فرشوا لك اوسع سكة من راس التين على مكة فرشوا لك اوسع سكة من راس التين على مكة وهناك بنفد على عكة ويقولوا عليك حكي ما هو كل لا يبدأ شلة يا اصحاب البيت
Un extrait alors de Nixon Baba. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu nous montres cet extrait?
Alors, donc Cheikh Imam, c'est l'auteur de cette chanson. Plus précisément, c'est lui qui a composé la musique et qui chante sur une poésie de sur un poème de Ahmed Fouad Neguem, qui était un poète également égyptien, donc comme Cheikh Imam. Là, on est dans les années, au début des années 70, au Caire. Donc, c'est un duo qui était célèbre en Égypte, mais aussi dans d'autres pays arabes entre les années 60 et 80, et qu'on considérait un peu comme des grosses gueules, et qui ont fait pas mal de prison pendant ces années-là. En raison de sujets de leurs chansons. Ils critiquaient beaucoup le régime, les différents gouvernements égyptiens, mais aussi les étrangers, notamment la politique américaine en Égypte. Voilà, donc ils avaient pas mal d'ennemis, je pense.
Tu peux nous aider à comprendre les paroles de cette chanson?
Oui, donc j'ai une traduction maison de quelques vers. Donc Nixon Baba, c'est Papa Nixon. Évidemment, donc, les présidents américains au début des années 70, et il se réfère en particulier à la visite de Nixon en 73, après la guerre avec Israël, et aux relations de corruption entre les Américains et le régime de Sadat. Donc, voilà quelques vers. Donc, les exploitants du peuple t'ont accueilli avec honneur. Ils ont déroulé le tapis rouge jusqu'à la Mecque pour que de là-bas, tu puisses aller à Accra, donc en Israël. Le jour de ton arrivée, ils t'ont préparé des rituels avec des putes qui se trémoussent les fesses. Donc, on voit bien qu'il y a une certaine ironie,
une
toujours.
Une drôle de bienvenue.
Voilà. Toujours une certaine ironie dans les chansons de Cheikh Imam. Et c'est un sujet qui m'a commencé à passionner au début 2010. Un an avant le début des mouvements de rue au Caire et dans d'autres pays arabes.
Tu faisais quoi là-bas? Comment ça se fait que tu t'es retrouvée à ce moment précis au Caire?
Je faisais une recherche à la School of Oriental and African Studies à Londres et j'avais donc choisi de travailler sur les chansons politiques en Égypte des années 70. Donc au début, ça devait se concentrer sur les années 70. Et puis, en début 2011, les mouvements de rue commencent à se manifester dans les rues du Caire. Et donc, je trouve que mon sujet de recherche se descend à la place Tahrir et qui se retrouve donc au centre de ce qui se passe.
Yeah. مصر هانت وبانت كلها كم يوم نهار ما نادي ونهار الندل مش باين يا مصر هانت وبانت كلها كم يوم نهار ما نادي ونهار.
Un extrait, je dirais, plus mélancolique que le premier. Je sais pas, moi je comprends pas exactement de quoi parle, mais je sens quelque chose de plus fort dans l'esprit de ce personnage. Qu'est-ce que c'est cet extrait, de quoi il parle?
Alors c'est une chanson qui a été composée par Mustapha Saïd, qui est un joueur de oud également, comme Cheikh Imam. Pour moi, c'est l'un des compositeurs les plus intéressants aujourd'hui. Il a composé cette chanson sur un texte d'un poète égyptien contemporain qui s'appelle Tamim El Barghouti. Et c'est une chanson qui a été composée pendant les jours de la Révolution et qui parle du vilain, donc de Moubarak, qui est parti quelques jours auparavant. Et donc Mustapha invite les personnes qui n'y croient toujours pas à descendre voir ce qui se passe dans la rue.
Qu'est-ce que, donc tu peux nous dire pourquoi tu es arrivé à découvrir ce personnage, cette musique?
En 2010, j'arrive au Caire pour enquêter sur Cheikh Imam et je découvre la musique de Mustapha qui venait d'avoir un certain écho, notamment chez les jeunes qui avaient participé à ces mouvements. Et du coup, je vais l'interviewer.
Exporting. So what I'm trying, or my experience is, or my experiment is, to find another solution, to find new based on the givings that we're giving to us. Subverted.
Yeah. I guess art, all types of art, can awaken people.
Do you have the impression that censorship has been reduced since the fall of Mubarak?
The what?
Censorship has been reduced since the fall of Mubarak.
I guess everything has been reduced since.
But did you really have this feeling, or it was just?
For me, yeah. I feel the air is much cleaner than before.
Yeah.
Je pourrais parler pendant des heures, je pense, de Mustapha, parce que c'est pour moi un exemple très intéressant de comment aujourd'hui certains artistes puissent dans leur héritage en Égypte, les héritages plutôt musico-égyptiens, pour parler de ce qui se passe aujourd'hui dans la société en Égypte, et donc sans faire appel à certains clichés qui circulent beaucoup, selon lesquels un artiste arabe qui fait du rock ou du rap est considéré avant-gardiste, alors qu'un artiste qui puise dans les racines de la musique classique arabe est considéré rétrograde ou conservateur.
On parlait avant d'écouter cet extrait, avant d'entrer en studio. Tu as eu la possibilité quand même d'aller les voir où ils habitent, où ils font des sons, de la musique. Ça se passe comment en fait? Tu peux nous raconter un peu cette expérience, disons, d'être là avec eux?
Oui, à ce moment-là, je suis retournée plusieurs fois au Caire pour cette recherche. Et à ce moment-là, c'était le moment, c'était mars 2011. Et c'était donc il y a quelques semaines après la chute de Moubarak. Et il y avait encore le couvre-feu au Caire. Et ça m'amuse de dire que c'était le seul moment où j'ai vu que le Caire ça rassemblait à une ville normale. Où la nuit on dort. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au Caire, la vie continue jour et nuit, les magasins sont ouverts, les gens sont dans la rue jusqu'à 6 heures du matin, enfin un peu moins maintenant. Et à ce moment-là, il y avait le couvre-feu et du coup, on passait les nuits chez les amis qui habitent au centre-ville pour chanter et pour attendre que la fin du couvre-feu se fasse, quoi.
Excuse-moi, j'ai posé une question. Qu'est-ce que ça t'a fait de réécouter ça?
Alors, depuis cet enregistrement, il y a eu une restauration. Il y a eu des milliers de morts et environ 40 000 prisonniers politiques. Donc, ça va de soi de dire qu'on est totalement dans un autre contexte maintenant et du coup, ça fait un effet bizarre. Surtout que je suis dans
le développement d'une nouvelle recherche qui va plutôt être sur la création théâtrale maintenant, qui a émergé donc à partir de cette époque, donc dans les derniers 10 ans. Et donc, 7 ans après, je me demande, est-ce qu'il est encore possible d'écrire ou juste de parler de ça sans un risque de manipulation? Si on considère, par exemple, que tous ces sujets-là ont été surexposés, il y a eu une overdose d'intérêt pour les printemps arabes, pour les artistes qui les ont incarnés, des fleuves de paroles d'institutions culturelles, de médias, mais aussi de chercheurs, moi-même inclus, ont transformé ces artistes en des rats de laboratoire, d'une certaine manière. Bon, et là, je tiens quand même à dire que ce n'est pas seulement un discours entre intellectuels sur un plateau radio qui est en question. Les discours des institutions se traduisent en des lignes budgétaires, en des politiques culturelles qui orientent les financements et influencent les perceptions des personnes. Je voudrais juste conclure en disant que malgré mes meilleures intentions des chercheuses, par exemple, avec le temps, j'ai commencé à ressentir un certain malaise, notamment vis-à-vis des discours que j'ai peut-être contribué à forger ou à déconstruire avec un degré d'intentionnalité ou de reconnaissance assez variable. Et donc, à partir de ce malaise-là, j'ai décidé de me mettre à la recherche d'un antidote. Et sûrement, Mustapha, pour moi, c'était un des antidotes que j'ai trouvé.
Okay, we are beaten enough. Let's have a little bit of a renaissance again. We are already like lived enough age of being beaten and being defeated and being controlled with the shoes of the rulers, etc. It's enough. It's really enough. Let's try to be ourselves. When I want to deal with a Western composer, let us be equal human beings. I don't want to be colonized anymore, not because I hate the colonizer, on the contrary, I love it. But I mean, I respect the other and I respect myself also. This is all.
يا هبل اسمك يضحك برضو بعض الآلهة بتبقى سخيفة ومتبتة قوي في الوظيفة بس رفضة تشتغل شوف أكل عيشك يا هبل اسمك يضحك يضحك يا هبل اسمك يا هبل يضحك يضحك يا هبل اسمك يضحك يا هبل اسمك يضحك
Vous venez d'entendre Virginia Pisano, écouteuse de rue, 5e épisode de notre voyage dans la recherche.
C'est quoi le son de ta recherche?
Et pourquoi les Mapuches?
Comment tu t'es rapprochée d'eux?
Et quelle est ta place par rapport à eux?
Et c'est quoi ton titre de thèse?
Et pourquoi t'as plus l'appareil photo avec toi?
Et t'es artiste ou t'es chercheur?
Bonne question. Franchement, artiste ou chercheur, c'est une des questions qu'on se pose le plus souvent une fois qu'on est en thèse, en création. Donc, c'est pas facile. À des moments, je pense que...
Oui, mais quel est le son de ta recherche? Réponds à nos questions.
Quel est le son? Ah, quel est le son de la recherche? Je pense que c'est, si vous pouvez imaginer, un microphone dans un appareil photo. Je pense que c'est ce son-là, c'est cette mystique mécanique que je cherche dans les appareils photo.
Est-ce que tu nous as apporté un extrait?
Je vous ai apporté un extrait, oui. Et c'est quelque chose qui est en rapport à ma thèse, qui n'est pas directement lié, mais je vous invite à l'écouter. C'est un rappeur mapuche qui était donc en concert au Musée de l'Homme pendant que je présentais, j'étais moi le commissaire, d'une exposition qui s'appelait « Mapuche en terre lafkenche ».
Puede ser el pide, representa cante chimabun, chi 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 cha, coco coco la harina, con qué, con qué, piden pide, el poder del pide representa.
Donc tu nous parlais de microphone à l'intérieur d'un appareil photo. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la prise de son a été faite pour ce son-là?
Ce son-là, j'étais spectateur en fait. J'avais mon iPhone, comme souvent dans le terrain que je travaille. j'essaye toujours de faire en sorte de disparaître les outils. C'est la façon peut-être la moins, je dirais, la plus objective, mais la moins rigoureuse scientifiquement parlant, puisque moi, je suis pas scientifique, donc j'ai aucun rigueur. Donc, je vole des sons.
Quel est ton meilleur en plus, ton pire souvenir de terrain?
Ah, mon pire souvenir dans le terrain.
Ouais.
C'est assez particulier. C'est en fait, comme je vous disais, je vole des sons, donc j'ai aucune autorisation à enregistrer. Chose qui est bien sûr mal vue et mal comprise par le monde scientifique sûrement, mais aussi par les chamans et par les propres naturels. Donc dans ce cas-là, c'est les Mapuches. Et moi-même, donc en train d'enregistrer, à des moments, je me mets dans des états un peu particuliers puisque je suis en train de faire quelque chose que je ne devrais pas. Et donc tout ça, pas pour publier hein, ces écoutes, c'est plutôt pour les garder pour moi en tant que mémoire. Mais donc une chamane descend de ma voiture puisque j'ai décidé d'avoir comme méthode, c'était les gens qui font du stop, donc je prenais tout le monde dans le stop dans ma voiture. Et elle arrive jusqu'à chez elle après avoir parlé 30 minutes à peu près sur mon sujet qui est celui de la caméra ou de l'impossibilité de faire des images ou des photographies à certains rituels. Et au moment qu'elle descend de la voiture, elle va voir son rewe, donc c'est une sculpture en bois qui se trouve juste à côté de la voiture, et elle sort ses deux ou trois couteaux qu'elle avait avec elle, et puis elle fait un geste qui me surprend, qui me laisse très préoccupé. Je rentre chez moi où je dormais, donc je dormais chez une autre chamane. Et sans lui dire quoi que ce soit, je lui partage le fait que j'avais visité où j'avais eu la chance de déposer cette chamane chez elle et qui lui fait un coucou, comme on dit en français, c'est-à-dire qui lui fait un bonjour. Le soir, avant de me coucher, j'ai un peu mal à la tête, tout ça avec une espèce d'idée comme quoi elle avait un pouvoir sur moi. Je ne pouvais pas m'en sortir, mais je voulais rien lui dire, en fait, à la Rosa, qui était la chamane où je dormais. Elle me dit à un moment, dès que je lui dis que j'ai mal à la tête, elle me dit, c'est sûr que c'est elle. Elle t'a fléché, donc une flèche qu'on te lance, donc je vais te guérir. Donc elle prend aussi ses couteaux et une pierre. Et elle fait une petite cérémonie, disons, vite fait, où elle m'aurait éventuellement levé la flèche. Je me dis qu'il faut être protégé et qu'il ne faut pas justement y aller sans aucun ou aucune chamane qui protège ou quelqu'un ou une pierre. C'est là où le sujet de ma thèse se mélange, superstition, croyance, rituel et photographie. Un mélange dans la terre de l'Araucanie au Chili, et aujourd'hui, 2018 en fait.
Donc du coup, toi tu viens de l'école de photo d'art, c'est là où tu fais ta thèse, et à côté de ça tu dis que tu ne peux pas prendre en photo, donc du coup c'est quoi la place de l'appareil photo et c'est quoi ta place? Et pour une thèse en création, tu dois quand même produire, j'imagine, un contenu artistique ou quelque chose dans le genre. Et du coup, quand tu places ton appareil photo, est-ce que tu peux prendre quand même des photos?
Bien sûr, je peux, mais dans ce cas particulier de la recherche, c'est moi qui a décidé donc d'inventer un système, quelque part une espèce de méthodologie, un mot qui, pour les artistes ou pour les photographes, on connaît peu. Et donc, fur et à mesure de ma recherche, j'ai compris que je ne pouvais pas me placer en tant que photographe pour ne pas continuer en fait avec la folklorisation des Indiens, pour ne pas avoir ce rapport à la photo anthropologique. Et donc, j'ai passé quand même quelques mois, hein, et la plupart de la première année, à me poser la question sur où et comment je me place dans cet espace. Donc, le photographe est en face du photographié. Dans ce cas-là, c'est des Amérindiens, la plupart, donc dans ma recherche. Et je décide donc d'inventer un système méthodologique qui est celui de laisser l'appareil faire quelques pas de côté et créer une image ou une forme de triangle où je deviens témoin de la scène sachant que j'attends d'étudier le regard qui est porté sur l'appareil depuis les Amérindiens.
Pues, ¿qué piensas de la cámara? ¿Es una forma de protección o una forma de película?
¿Qué pienso de la cámara? Una buena pregunta.
Gracias.
El peligro de la cámara es difícil hasta ahora. La verdad es que no he logrado encontrar una solución y tampoco creo que sea necesario decidir si es peligroso o no. Lo que sí creo que es importante entender es que en los terrenos que uno va a estudiar hay creencias y esas creencias hay que respetarlas. Uh-huh. Y en ese respeto, una cámara, en todo caso en territorio mapuche, genera desconfianza, genera miedo y si para ellos esos aparatos impiden que las almas o que los espíritus vengan a ciertos rituales y que impiden que las machis entren en trances porque tienen un cierto... Ellas hablan de un dolor cuando está la presencia de la cámara en algún tipo de ritual.
¿Y es la misma cosa con los sonidos o solo con la imagen?
Los sonidos es un análisis que estoy llevando ahora a cabo, que al parecer fuese el sonido de la cámara que pudiese intervenir en este ritual, que por lo común siempre tiene un tum, 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 tum. Y la cámara simplemente al hacer clic viene a desincronizar el ritual y por ende generaría a mi forma de ver hoy día el ritual fotográfico un problema en un ritual sonoro, digamos, porque es muy, muy constante el ritmo que tiene un machitún o una ceremonia mapuche.
Alors quand tu parles justement de l'appareil photo, de la symbolique de l'appareil photo, la peur, la douleur même, est-ce que tu retournes après sur place pour désacraliser peut-être l'appareil en montrant tes prises de vue, enfin en montrant ce qui sort de cette torture presque, de ce regard extérieur et qui pourrait paraître insultant et qui en réalité, toi, tu produis quelque chose de plus artistique, enfin quelque chose d'artistique qui est aux antipodes de leurs préjugés. Donc, est-ce que toi, tu retournes ou est-ce que tu vas retourner?
Je retourne en février là parce qu'il y a un rituel très particulier, c'est le Ngiyatun. Donc, je suis invité. J'ai la chance d'être invité, mais depuis le début, même quelques jours avant d'arriver pour la première fois sur le territoire, donc j'ai décidé de ranger l'appareil photo. Donc ranger l'appareil photo devenait quelque chose conceptuellement d'assez clair par rapport à ce triangle méthodologique qui était celui de laisser l'appareil photographique au photographe et moi en tant que témoin justement créer des œuvres sans appareil photo.
Vous venez d'entendre Sergio Valenzuela Escovedo, photographe sans appareil, dernier épisode de notre voyage spatio-temporel dans la recherche.
Profession chercheur numéro 6 a été réalisée en mai 2018, en clôture de la formation doctorale sur la communication scientifique. Remerciements à Nicolas Chevassu, Philippe Hert et Jérôme Matteo. Équipe technique, Sébastien Gelli, Djilali Hamish et Anaïs Kabandé.